Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser avec nos invités. Nous reviendrons largement ce soir sur cette occupation donc à Sciences Po, occupation de manifestants pro-palestiniens. Une ligne rouge a été franchie, c'est ce qu'a dit ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, islamo-gauchisme, entrave à la liberté académique, climat de terreur intellectuelle sur une partie des étudiants. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Et pour cela, Shannon Seban, présidente Renaissance Seine-Saint-Denis, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, le géopolitologue Denis Deschamps. Bonsoir, mon cher Denis.
Olivier.
Et Vincent Roy nous accompagne également. Mon cher Vincent, bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Journaliste, écrivain. Mais avant, avec nous également, Monseigneur Mathieu Rouget. Monseigneur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes évêque de Nanterre. Puisque pour cette première partie, nous allons aborder la question de la fin de vie. Emmanuel Macron, en effet, a rencontré en fin d'après-midi les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie afin de discuter du futur projet de loi dédié. Alors les débats commenceront le 27 mai à l'Assemblée nationale. 184 personnes réunies, c'était à la demande de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, ont donc travaillé sur une évolution du droit pouvant mener à, je cite, une aide active à mourir. Écoutons le chef de l'État, il s'exprimait cet après-midi.
Jamais nous n'ouvrirons une situation éthique où l'aide à mourir serait proposée parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge de la douleur ou l'existence de soins palliatifs. La vocation des soignants est d'accompagner jusqu'au bout ceux qui souffrent. Alors certains se demanderont peut-être pourquoi nous n'avons pas proposé deux textes de loi. Une pour les mesures relatives aux soins palliatifs et une autre pour l'aide à mourir. Parce que je crois profondément qu'en faisant cela, nous aurions rompu l'équilibre que nous devons trouver. Une seule loi, c'est le choix de traiter de manière globale la question de la fin de vie.
Complexe que nous allons aborder avec vous, notamment avec vous, Monseigneur Rouget, puisque mercredi, ce sont des évêques français qui ont été reçus par la commission parlementaire sur le projet de loi pour entendre très précisément la posture de l'épiscopat. Première question peut-être, est-ce que selon vous les conditions sont réunies pour un débat éclairé, pour un débat apaisé sur cette question, on le sait, délicate, épineuse de la fin de vie ?
Alors c'est un débat évidemment très très sensible sur lequel personne ne peut prendre la parole avec des formules à l'emporte-pièce. Et il s'agit aussi de prendre en compte la souffrance que peuvent vivre les malades, mais aussi l'engagement magnifique de tant de soignants dans les soins palliatifs qui aujourd'hui se sentent très mal à l'aise avec le projet de loi qui est sur la table. Je pense que nous sommes dans la condition d'un débat possible. Encore faut-il que vraiment qu'on puisse aller au fond des choses. Les auditions n'auront duré qu'une semaine avec la commission spéciale de l'Assemblée, c'est court. Mais en même temps, le débat parlementaire va durer encore de nombreux mois avec le va-et-vient entre les deux assemblées. Donc je pense qu'il y a les conditions d'un débat. Après, moi, je suis tout à fait circonspect sur ce que nous venons d'entendre dans la bouche du président de la République. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le lui dire déjà. Le fait qu'il y ait une seule loi sur les soins palliatifs et l'aide active à mourir, en réalité, c'est confondre deux sujets et un peu délibérément, si vous voulez. Parce que sous le vocable « aide à mourir », on veut mettre et les soins palliatifs et l'aide active à mourir, qui est une sorte de mélange de suicide assisté et d'euthanasie.
Justement.
Et donc, je pense que, d'ailleurs, le ministre délégué, Frédéric Valletoux, juste avant d'être nommé ministre, avec d'autres parlementaires de différents bancs de l'Assemblée, avait demandé, pour des raisons constitutionnelles fortes, qu'il y ait deux textes différents.
Alors justement, Shannon Seban, je pourrais aussi vous interroger sur la question, puisque l'exécutif refuse catégoriquement d'employer le terme euthanasie ou suicide assisté. Ce qui, dans les faits, on peut le rappeler, semble le cas, puisque ce qui est prévu à ce stade, deux cas de figure fixés. Le premier, le patient est en mesure d'ingérer la substance létale, on pourrait appeler ça un suicide assisté. Le second, le patient ne peut réaliser lui-même ce geste, qui serait le cas, par exemple, pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. On pourrait parler
De fait, il y a vraiment une euphémisation qui n'est pas à la hauteur d'un débat démocratique entre citoyens adultes. Si l'exécutif veut avancer vers un mix de suicide assisté et d'euthanasie dans certains cas, eh bien, il faut l'assumer et qu'on en débatte en termes clairs. La question est trop grave pour être dissimulée derrière des euphémismes. Et d'ailleurs, dans le rapport que le Conseil d'État a fait quand le gouvernement lui a présenté le projet de loi, il a dit cela. Il a dit qu'il fallait appeler les choses par leur nom. Et d'ailleurs, dans la première partie du projet de loi, plusieurs articles, c'est supprimer le mot palliatif et le remplacer par accompagnement, parce que dans accompagnement, on peut mettre et le soin palliatif et l'aide active à mourir. Et cela n'est pas heureux. Vous savez, on répète souvent, et à juste titre, cette formule de Camus, mal nommer des choses contribue au malheur du monde. Si on veut chercher le bien commun, il faut bien nommer les choses.
Shannon Seban, peut-être une réaction. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une tromperie, déjà dans le vocabulaire utilisé dès le départ sur ce débat sur la fin de vie ?
Alors, employer le terme de tromperie, je trouve ça un petit peu fort. Moi, ce que je vois dans ce projet de loi qui a été effectivement présenté devant les membres de la Convention citoyenne par le président de la République Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que c'est un projet de loi qui était particulièrement attendu et que ce projet de loi n'est pas sorti du chapeau. Il a fait l'objet, il a été construit grâce à 100 des consultations qui ont été menées avec 184 membres de cette Convention citoyenne. Et d'ailleurs, le président de la République a toujours été attaché à ce modèle de démocratie participative, de consultation très large sur un bon nombre de sujets. Et je veux faire ici une incise. Il a d'ailleurs annoncé aujourd'hui qu'une troisième convention citoyenne serait menée en 2024. Maintenant, ce projet de loi...
Sur quel thème, pardonnez-moi, je vous coupe, sur un autre thème, on ne sait pas encore.
Alors ça, je ne saurais vous le dire et je ne saurais m'avancer sur ce sujet. Mais en tout cas, sur ce projet de loi fin de vie, ce qu'il est important de rappeler, c'est que c'est un projet de loi qui vise à accompagner tout le monde en s'appuyant sur deux jambes. Effectivement, un plan décennal de renforcement des soins palliatifs et l'ouverture d'une aide à mourir sous des conditions très strictes. Et là, dessus, employons les bons termes, il ne s'agit effectivement ni d'euthanasie et ni de suicide assisté. Et donc là-dessus, sur la terminologie, parce que je crois qu'il est important de bien nommer les choses effectivement, ce projet de loi qui a été construit avec les 184 membres et en tenant compte des 184 recommandations, si chacun en aurait émis une, ça ne vient pas de nulle part. Donc ce sont des personnes qui ont été consultées. Et encore une fois, le texte pourra être amendé, enrichi, et le président de la République lui-même l'a rappelé aujourd'hui devant les membres de la Convention citoyenne, puisqu'il va faire son chemin au sein des deux chambres que sont le Parlement, en tout cas l'Assemblée et le Sénat.
Monseigneur Rouget, je vous voyais...
Oui, alors d'abord, la Convention citoyenne demandait expressément, pour le coup, le suicide assisté est une forme d'euthanasie. Et le président est venu montrer qu'il avait donné satisfaction à la demande d'une partie des citoyens de la Convention, alors même que, vous voyez, les choses sont nommées différemment. Et sur cette antenne, ici, ce matin même, presque tacitement, contrairement à ce que le faisait auparavant, Mme Vautrin a bien reconnu qu'il y avait une part d'euthanasie possible dans le projet de loi. Après ça, la question de la stratégie décennale, c'est une chose, c'est pas un texte législatif, c'est des dispositions réglementaires. Et la partie législative concernant les soins palliatifs, première partie du projet de loi, en fait n'avance aucun financement. Donc ce sont un peu des paroles de principe et qui n'auront d'effectivité que si successivement, c'est même pas une loi d'orientation sur 5 ans, si successivement dans le PLFSS chaque année, on vote des crédits suffisants. Maintenant, vous avez évoqué les conditions très strictes. Et ce qui est frappant, c'est de voir que d'abord beaucoup de personnes déjà veulent des conditions plus larges. Le monde médical en général, par rapport à une des conditions qui est le pronostic vital engagé à court et moyen terme, dit on peut parler d'un pronostic vital à court terme, mais à moyen terme, ça n'a pas beaucoup de signification. Et puis, plusieurs intervenants disent déjà c'est une étape, il faudra aller plus loin. Et la ministre, une fois ou l'autre, quand on a parlé des mineurs, par exemple, ou de certains malades pour des raisons psychiques, dit en l'état, ce n'est pas ouvert pour eux. Alors, je sais qu'elle-même, quand elle dit « en l'état », c'est une sorte de maladresse d'expression et qu'elle ne veut pas qu'il y ait des conditions plus larges. Mais cette simple maladresse d'expression dit quelque chose de la fragilité des conditions. Et donc, je crois qu'il faut être très attentif parce que combien de fois on se dit qu'on met des verrous et en fait de verrous, on met des cliquets pour aller pas à pas vers des dispositions toujours plus permissives et donc pas respectueuses de la pleine dignité des personnes humaines.
Alors sur les mesures, je vous propose d'écouter justement Emmanuel Macron, il les a rappelées cet après-midi, puis après on s'interrogera effectivement, est-ce que la France va devenir la Belgique si effectivement ce projet de loi passe, où aujourd'hui les mineurs peuvent se faire euthanasier, c'est le cas en Belgique, est-ce que ce sera le cas en France demain? On en parle dans un instant, on écoute le chef de l'État.
Nous avons ouvert la possibilité, dans le texte qui est soumis maintenant au Parlement, d'accéder à une aide à mourir pour les personnes se trouvant dans cette situation, sous réserve de 5 conditions strictes. Être majeur, comme vous l'aviez retenu, de nationalité française ou avec une résidence stable et régulière en France, disposer d'une capacité de discernement pleine et entière, jusqu'au bout, de sorte que la personne puisse à toutes les étapes réexprimer son consentement à l'acte, être atteinte d'une infection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme, et présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection.
Voilà, Mgr Mathieu Rouget, pour les règles strictes énoncées une nouvelle fois par le chef de l'État. Mais ce que vous nous dites ce soir, c'est attention, cela ne veut pas dire que demain, les mineurs en France ne seraient pas concernés.
Alors, il ne faut pas forcer le trait, si vous voulez, mais ces conditions dites strictes sont en réalité fragiles. Et puis d'abord, il va y avoir le débat législatif, on va voir comment s'expriment les parlementaires. Et puis... on voit bien que dans différents pays, pas à pas, on a élargi les conditions et il ne faut pas trop vite s'appuyer sur des conditions dites strictes. En fait, vous avez parlé de la situation belge. C'est assez étonnant ce projet de loi. Il est un peu une synthèse de l'Oregon, du Canada, de la Belgique. Et en tout cas, le Canada et la Belgique sont sur des pentes extrêmement glissantes, au point que la proportion de morts par euthanasie dans la somme totale des morts chaque année progresse de manière extrêmement significative. Puis il y a des choses étonnantes, vous voyez, dans ce projet de loi. Par exemple, si quelqu'un n'est pas en mesure de se donner la mort lui-même, donc suicide assisté, alors il peut avoir recours à un personnel médical ou à un tiers désigné. Et on ne sait pas très bien d'où ça sort. Je pense que c'est une référence à un projet étranger qui a été mis dans celui-là. Mais ce qui m'a frappé pendant les auditions, c'est qu'il a été envisagé de pouvoir fournir une aide psychologique au tiers désigné qui aurait transmis le produit létal, parce qu'on anticipe que ce sera traumatisant. Et donc ça veut dire qu'on reconnaît bien qu'il y a une sorte de traumatisme anthropologique. Et un projet de loi pour le bien commun doit veiller au respect de la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions et éviter précisément tout ce qui est traumatisant pour la dignité de la personne humaine.
Avec ce modèle français de fin de vie, vous parlez finalement d'une forme de basculement anthropologique.
Oui, le grand rabbin de France avait pris cette formule, en tout cas de manière générale, si on allait vers l'euthanasie, en parlant de rupture anthropologique. Vous savez, le fait de respecter la vie d'autrui, c'est le fondement de la vie en société. Donc, encore une fois, j'entends très bien toutes les questions qui sont derrière, et il ne s'agit pas de ne pas prendre au sérieux des grandes douleurs qui existent. Mais il faut aussi prendre la mesure de tout ce qui se fait dans les soins palliatifs. Et même le Comité consultatif national d'éthique, qui avait entrouvert dans son dernier rapport une porte vers le suicide assisté, disait « Mais de toute façon, avant d'avancer dans ce domaine sur le plan législatif, il faut commencer par mettre en œuvre pleinement les dispositions concernant les soins palliatifs. Il y a aujourd'hui à peu près un quart des départements qui sont dépourvus de soins palliatifs. Il y a des déserts palliatifs. Commençons par lutter contre ces déserts. Et ensuite, on verra s'il y a d'autres dispositifs à mettre en œuvre.
Shannon Seban.
Et c'est précisément ce qui est proposé dans ce projet de loi. Enfin, très sincèrement, moi, je l'ai regardé très attentivement. Moi, je trouve qu'au contraire, on a abouti, grâce à ces consultations auprès des membres de la Convention citoyenne, sur un texte qui est équilibré et, si je puis dire, qui ne froisse personne ou qui ne brusque personne pour la suite des discussions. Puisqu'on a effectivement, vous le rappeliez, on a des déserts qui ont été notés dans certaines parties de notre pays sur justement les soins palliatifs. Donc on met en place un plan décennal de renforcement des soins palliatifs, qui était une demande là encore. Et de l'autre côté, on ouvre effectivement la possibilité d'avoir une aide à mourir. Et encore une fois, je veux le rappeler, on peut ici commenter ce projet de loi en l'état pendant des heures. On n'est ici qu'aux prémices de ce projet de loi.
C'est pour ça que
c'est le temps du débat.
Voilà, absolument. Et c'est important de le faire. Mais tout ça pour vous dire que le texte aura vocation à évoluer lors des débats qui auront lieu à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et encore une fois, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un système bicaméral qui nous permet d'avoir une continuité des débats. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on est effectivement aux prémices et que tout ça pourra évoluer, bien entendu.
Alors, je voudrais ajouter deux petites choses. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un projet de loi équilibré, qui satisfasse tout le monde. C'est un projet de loi qui ouvre une possibilité, comme l'a dit le président de la République, vers l'aide active à mourir. Deuxièmement, ne faisons pas de la Convention citoyenne l'alpha et l'oméga de la consultation sur le sujet. C'est un élément que je ne dénigre pas. Et d'ailleurs, moi j'ai participé à la préparation, c'est pas moi qui étais présent, mais j'avais préparé l'intervention des cultes devant la Convention citoyenne. Mais attention, des citoyens qui passent 27 jours à réfléchir à ce sujet, c'est intéressant. Mais enfin, c'est un sujet si subtil. Donc, les vraies personnes à entendre, c'est le personnel médical. Et je suis étonné que cette semaine, certes, un certain nombre de médecins ont été entendus, l'Ordre des médecins, la Société française sans cesse des soins palliatifs, mais par exemple, on n'a pas pris le temps d'écouter les gériatres. Là, ce n'est pas 27 jours, c'est parfois 10 ans de pratique médicale auprès des personnes en fin de vie. Donc, vous voyez, la Convention citoyenne, n'en faites pas l'alpha et l'oméga.
Non,
c'est un lieu de démocratie participative qui a sa signification. Mais je pense que l'écoute des professionnels de santé, qui globalement sont extrêmement réservés, mérite d'être plus sérieuse qu'elle n'a été jusqu'à maintenant.
Je n'ai aucun doute par ailleurs sur le fait que les membres de cette convention citoyenne représentent un corps de métier, tout corps de métier, qui permet d'avoir finalement un avis extrêmement éclairé et l'avis des gériatres, des médecins, du tissu associatif et autres. Donc cet échantillonnage-là de 184 personnes, ce n'est pas 184 citoyens qui ont été trouvés en bas de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnes qui ont été dûment sélectionnées parce qu'ils représentent justement une diversité de points de vue qui était nécessaire pour pouvoir établir un projet de loi équilibré.
Et d'ailleurs, le chef de l'État qui ne s'oppose pas à un référendum sur la question de la fin de vie, je vous donne la parole ensuite, on écoute Emmanuel Macron.
Il y a la possibilité pour les parlementaires et les citoyens de le faire, ou le président. Moi, je l'ai dit, je n'exclus pas de le faire et je pense que c'est utile. Après, par rapport à tout le travail que vous êtes en train de faire, c'est une autre façon d'exprimer la démocratie. Elle est en fait souvent plus tranchée. Simplement, notre histoire contemporaine nous a appris d'abord que le référendum, c'est en fait l'inverse de ce que vous avez fait parce que c'est oui ou non. Et que la deuxième chose, c'est que très souvent dans le référendum, dernières décennies, c'est rarement la réponse à la question qui est posée. C'est très compliqué, c'est aussi pour ça, moi je l'ai dit dans les réformes constitutionnelles que je veux faire, c'est de mieux articuler le temps entre le référendum et le parlementaire. Moi je suis pour, je veux le faire, simplement c'est un exercice d'une nature différente.
Et on a que Jean-Baptiste Souffron, avocat, qui nous a rejoint. Bonsoir, maître. Vincent Roy, quand on entend, vous entendez le chef de l'État qui ne s'opposerait pas à un référendum sur la fin de vie, quelle est votre réaction? Est-ce que...
Ben voyons, laissons le temps au temps, si j'ose dire. Mais une chose me frappe. Il me semble que sur cette question, on va trop vite en besogne. A-t-on besoin de, à l'heure où nous parlons, a-t-on besoin de légiférer sur une question aussi, à la fois aussi importante et aussi complexe? Je crois que d'abord, et Monseigneur l'a rappelé, et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec lui, d'abord, faudrait-il qu'on ait une égalité de traitement sur l'intégralité des territoires pour ce qui est des soins palliatifs? Ça me paraît la première chose, la première des choses. Que chacun soit égal, quel que soit l'endroit où il habite sur le territoire, avec la question des soins palliatifs, puisqu'il y a de grandes disparités. Donc il faudrait qu'on soit au maximum de nos possibilités sur le soin palliatif. Ensuite, il me semble... Et là, je vous le confesse, c'est plutôt du vécu. Il me semble que les soignants sont très en pointe sur ces questions, savent parfaitement ce qu'ils font, et que pour être en première ligne, c'est vraiment à eux, d'une certaine manière, de prendre le sujet à bras-le-corps, si j'ose dire, de s'en emparer et de nous dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, parce que c'est le cas de le dire. C'est pas simple d'être à côté de quelqu'un qui s'en va, qui s'enfonce dans la nuit de la mort. C'est pas simple. Et donc, ils savent très bien faire. Et de ce point de vue, j'aurais une tendance à leur faire véritablement confiance. Donc d'abord, avant de légiférer, de vouloir à toute force légiférer sur la fin de vie, faisons en sorte que, du point de vue des soins palliatifs, tous les problèmes soient réglés. Et ce n'est pas le cas à l'heure où nous parlons.
Et on peut rappeler que tu ne tueras point est au cœur du serment d'Hippocrate.
Ça, c'est un vrai problème pour ce qui est des médecins. Ce n'est pas leur rôle.
Mais en tout cas, Monseigneur, cette loi est présentée de manière symbolique comme une loi de liberté. Au fond, la dernière liberté à conquérir. Pourquoi cela ne serait pas le cas, selon vous ?
Non, je précise que je suis évêque, je suis croyant, mais dans ce domaine-là, moi, j'exprime avec tout ce que je suis, évidemment, mais au nom de la raison. Et il ne s'agit pas pour les cultes et pour l'Église catholique en particulier d'imposer un point de vue confessionnel à la société. Et ce que nous disons est partagé par beaucoup de personnes totalement laïques. J'ai enregistré sur une autre télévision un long dialogue avec Jean Leonetti, qui fait autorité dans ce domaine en France et qui dit volontiers qu'il est athée, qu'il est purement laïque. Et nous partageons vraiment les mêmes positions. Alors après ça, vous voyez, la question de la liberté est très importante. Beaucoup disent, mais chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. En réalité, il s'agit toujours d'articuler, et ça le président de la République est d'accord, nous l'avons parlé ensemble, autonomie et solidarité. Le choix libre d'un individu engage le reste de la société. Et donc, la possibilité que certains voudraient avoir de pouvoir mettre fin à leur jour, eh bien, elle induit un changement dans toute la société, et en particulier, le regard que la société porte sur les personnes les plus fragilisées, et la manière dont les personnes les plus fragilisées elles-mêmes vont sentir qu'elles sont légitimes à continuer de vivre.
En gros, je ne sers plus à rien, je souhaite mourir.
Et je deviens un poids pour la société, alors même que ce serait si facile de s'arrêter là. J'étais frappé parce que dans les auditions de cette semaine à l'Assemblée, un député LFI, je crois, peut-être porteur de handicap, je crois qu'il est favorable au projet, mais malgré tout a dit attention, dans ce qu'il appelait une société validiste, donc une société qui promeut disons, la réussite de ceux qui sont en pleine santé, eh bien, ne faites pas une loi qui ferait peser sur les personnes fragiles une sorte d'injonction à ne pas être un poids trop lourd pour la société. Et c'est une vraie question. D'ailleurs, dans son interview à La Croix et à Libération, dans laquelle il a présenté le projet de loi il y a quelques semaines, le président de la République reconnaissait cette question. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui doit être encore pris au sérieux dans les auditions et dans les débats qui viendront.
Shannon Seban, c'est vrai que cette question finalement de la façon dont va être ressenti ce nouveau projet de loi, cette nouvelle loi, si elle est adoptée, il faut le prendre en compte également, comme le disait Mgr Rouget.
Oui, absolument. Et moi, je vous rejoins tout à fait, Monseigneur. On est ici sur un sujet qui est extrêmement clivant. C'est un sujet de société sur lequel, effectivement, je crois que le président de la République a eu véritablement raison d'engager ce sujet via une consultation et en tout cas une consultation auprès des membres de la Convention citoyenne. C'est un sujet qui est extrêmement clivant. Maintenant, effectivement, et vous l'avez rappelé, il n'écarte pas la possibilité d'un référendum, tout en rappelant que c'est un mode de consultation qui est par ailleurs extrêmement difficile quant à la réponse qui peut être apportée. Maintenant, encore une fois, on verra ce qu'il adviendra de ce texte, et je ne suis pas ici Madame Irma. Je pense que les députés à l'Assemblée nationale auront tout le loisir de consulter eux-mêmes, à leur tour, leurs administrés au sein de leur circonscription. Les élus locaux, les maires auront également la possibilité de faire remonter certaines positions et de sentir le pouls du terrain, si je puis dire, et de tâter le terrain pour savoir un petit peu comment est-ce que ce projet de loi et les grandes lignes de ce projet de loi sont reçues par la population. C'est extrêmement important de consulter parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi. On parle ici de la fin de vie. On le voit bien en Belgique où tout cela est déployé. On ne peut pas aborder ce sujet-là de façon... si je puis dire, à la volée et balayer d'un revers de main les contestations qui pourraient avoir lieu sur ce projet de loi. Mais encore une fois, moi je crois beaucoup en la vertu du débat démocratique et du débat qui peut avoir lieu au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Donc je suis très curieuse de voir ce qu'il en adviendra. Mais en l'occurrence, en l'état et pour avoir parlé à des acteurs associatifs qui ont contribué très largement aux réflexions qui ont permis d'élaborer ce projet de loi, pour l'instant c'est très bien accueilli.
Monseigneur Rouget, peut-être pour conclure, nous arrivons au terme de cette interview. Est-ce que effectivement les voix des uns, des autres, elles sont suffisamment entendues aujourd'hui ?
De fait, moi je pense qu'il faut que le débat parlementaire se fasse de manière sérieuse. Au moment de la première loi Leonetti, il y avait eu vraiment un travail d'audition parlementaire très approfondi. Et vous voyez, dans le premier travail qui a été fait à l'époque où Mme Firmin Le Bodo était ministre déléguée en charge de ce dossier, j'ai entendu quand même souvent des médecins du monde, notamment palliatif, qui avaient le sentiment de ne pas être vraiment pris au sérieux et écoutés. D'ailleurs, ils ont à un moment donné cesser leur participation aux concertations parce qu'ils considéraient qu'elles n'en étaient pas vraiment. Je crois que les premiers contacts de la ministre actuelle avec les associations de soins palliatifs n'ont pas été faciles. Et donc, je pense qu'on peut progresser au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, quand ce sera le temps du Sénat, dans l'ampleur et la disponibilité au dialogue avec tous les acteurs. Et je pense en particulier dans le monde médical, non seulement aux médecins de soins palliatifs, aux médecins en général, mais tout spécialement aux gériatres, sans oublier les infirmières, les aides-soignantes. Et puis je voudrais aussi dire un mot, je crois qu'il faut progresser dans ce domaine-là, aussi dans le cas où on avancerait sur ce projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, dans tout ce qui concerne l'objection de conscience des médecins, ça c'est prévu par la loi, mais il faut le stabiliser, l'objection de conscience des pharmaciens, et ça c'est contesté par la loi, et je pense que ce n'est pas ajusté, et puis aussi comment est-ce que des établissements médicaux, des maisons pour personnes âgées, qui ont un certain nombre de valeurs et qu'elles veulent conserver, pourront garder leur place et être autorisées à ne pas pratiquer l'aide active à mourir si ce sont les valeurs qu'elles proposent et qu'elles veulent garantir aux personnes qu'elles accueillent.
Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur un sujet effectivement douloureux, difficile, délicat, mais qui nous concerne tous et nous aurons l'occasion de suivre de très près l'évolution de ce projet de loi donc sur la fin de vie. Un grand merci à vous, Monseigneur Rouget. Nous allons à présent nous intéresser à l'actualité qui a fait la une de la journée. Les lignes rouges ont été franchies, ce sont les mots de la ministre de l'Enseignement supérieur, alors que Sciences Po était occupé par des dizaines de manifestants pro-palestiniens rejoints par des députés de la France insoumise. Alors des étudiants ont passé la nuit dernière dans le bâtiment historique de l'école. Ils ont entrepris de bloquer sa principale entrée. Une mobilisation pro-palestinienne qui a continué toute la journée jusqu'à l'évacuation de la voie publique par les forces de l'ordre aux alentours de 20h, keffiyeh sur la tête, drapeau palestinien à la main. Et ils étaient une centaine à scander Israël assassin ou From the River to the Sea devant le campus historique de Sciences Po Paris. Retour sur cette journée avec Adrien Fauteneau et nos équipes sur place. Et puis, nous accueillerons nos invités pour en parler ensuite.
À Sciences Po, la tension n'en finit plus de monter. Face à la mobilisation pro-palestinienne ce vendredi, les partisans israéliens comptaient bien faire entendre leur voix.
Nous, on est là pour empêcher la confrontation. Ce qu'on veut, c'est du débat. Il nous empêche de débattre. C'est Sciences Po qui doit agir maintenant pour éviter ça. Ce que créent ces manifestants, c'est exactement cette violence.
Pour séparer les deux camps, les forces de l'ordre ont formé un cordon de sécurité sans disperser la mobilisation pro-palestinienne ralliée par la France insoumise. Un climat que dénonce ce professeur qui exerce en temps normal à Sciences Po.
Je suis quand même très triste de voir à quel point il faut que les forces de l'ordre se déplacent. Je pense qu'il ne faut pas confondre un lieu d'enseignement et un lieu de propagande. Voilà ce que je pense de la venue de Rima Hassan. On sent une tension qui est en train de monter, Et je pense qu'il est temps que cette tension, elle retombe. Il faut qu'elle retombe sur les campus, il faut qu'elle retombe à Sciences Po. Et je ne suis pas du tout certain, puisque j'ai vu tout à l'heure un leader de la CGT prendre la parole, je ne suis pas du tout certain que les étudiants qui sont là ne sont pas en train de se faire manipuler.
Le comité Palestine de Sciences Po, à l'origine de cette mobilisation, réclame de la direction une condamnation claire des agissements d'Israël.
Et Yvaine Lecauze, délégué national du syndicat étudiant uni, nous a rejoint. Yvaine Lecauze, bonsoir. Alors on va compléter ce sujet puisque la direction de Sciences Po Paris a annoncé ce soir un accord avec ses étudiants mobilisés pour la cause palestinienne par lequel elle s'engage à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires lancé contre des manifestants. Cela semble tout de même, Yvaine Lecauze, assez incroyable. Est-ce que la direction de Sciences Po s'est soumise face aux insoumis, si je puis dire, ce soir?
Vous savez, avec l'UNI, on a longtemps été les compagnons de route de Charles Pasqua. Et Charles Pasqua, il disait, on ne négocie pas avec les terroristes. Bien que ces personnes-là, on ne puisse pas les considérer comme des terroristes, ce sont en tout cas, je pense, des terroristes intellectuels. Quand on effraie les étudiants parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont sionistes et ou parce qu'ils sont de droite et qu'on ne les laisse pas aller à Sciences Po, qu'on ne les laisse pas étudier, qu'on ne les laisse pas exprimer leurs idées et qu'ensuite on occupe illégalement un bâtiment, je pense qu'on fait du terrorisme intellectuel. Et malheureusement, aujourd'hui, Sciences Po se compromet en négociant avec ces terroristes intellectuels.
Effectivement, Jean-Baptiste Souffron, Denis Deschamps, on va vous entendre hein, les uns après les autres. Effectivement, c'est étonnant cette réaction ce soir de la direction de Sciences Po, c'est-à-dire au fond pour empêcher que eh bien, la situation s'embrase. Finalement, aujourd'hui, Sciences Po se couche face à ces groupuscules pro-palestiniens. Et on détaillera et on verra qu'il y a justement derrière. C'est ça qui est grave.
Oui, mais Sciences Po est une institution qui est en faillite depuis déjà de nombreuses années, qui enchaîne les scandales financiers, de management, voire même à caractère sexuel depuis déjà longtemps, qui n'a pas eu à sa tête quelqu'un qui soit diplômé d'un doctorat, comme c'est le cas de la plupart des grandes universités internationales depuis au moins 2012. Et en fait, c'est ça, c'est un peu une école qui se rêve d'être une université. Mais là, on se rend bien compte qu'en fait, on donne beaucoup trop d'importance et de crédit à ce qui est, accrochez-vous quand même, la deuxième association la plus subventionnée de France et dont on peut se demander, du coup, en réalité, même sans juger du fond de ces manifestations, du fond qu'une université donne lieu à des débats politiques, ce qu'on constate surtout, c'est une désorganisation complète et une absence de capacité de la direction de cet établissement à reprendre pied. Mais il y avait déjà un scandale il y a un mois. Il y avait des scandales trois mois plus tôt. Il y a un moment, il faut se poser la question de savoir à quoi sert encore Sciences Po et si cette institution mérite encore d'être financée de cette façon.
Nous allons en parler dans un instant. Il va revenir, mais Denis Deschamps, avec une telle décision ce soir de la direction de Sciences Po, on peut imaginer que de tels événements eh bien, se reproduisent dans les jours, les mois qui viennent. Je veux dire, c'est inciter aussi ces jeunes à recommencer. On leur propose un débat, sous quelle forme, comment, pourquoi, avec qui, et puis plus pas de sanctions. Finalement, pourquoi ils s'arrêteraient là ?
Et vous avez tout à fait raison, en fait. En réalité, Sciences Po, c'est l'enfant malade, pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est l'enfant malade de l'éducation nationale. Donc, lançons un débat public, parlons-en avec les parlementaires, parce que là, il y a un vrai sujet. C'est qu'en fait, c'est la démonstration de l'effondrement de l'école, puisque on ne veut pas parler dans l'espace public de l'effondrement des classements de PISA et d'autres. Et en fait, on est en train de voir la démonstration que l'école, elle est totalement, comment dire, impuissante, et que maintenant, pour essayer d'apporter un peu de calme par rapport à des gens qui sont un peu manipulés quand même, hein, on est honnête quand même là, ce sont des gens totalement manipulés, eh bien, on va faire un contrat entre la rue, entre les contestataires et l'école, et on va faire un débat à l'intérieur. Mais en fait, l'école de nos grands-parents, où est-elle ? Où est-elle ? Le professeur l'a bien dit, en fait, là, on est dans un espace de propagande et non pas dans un espace de transmission du savoir. L'école est là pour faire grandir les gens, pour leur apporter une ossature, une vraie colonne vertébrale du savoir, pour qu'ensuite ces élites puissent diriger la France.
Et on continue de parler de la situation à Sciences Po aujourd'hui dans un instant. Yael Ménage, députée RN de la Somme, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, sera en liaison avec nous dans un instant. Mais avant, il est 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Simon Guilin. Bonsoir, mon cher Simon.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Un adolescent interpellé aujourd'hui au Mans pour menace terroriste. Ce mineur déscolarisé menacé de commettre un attentat contre 180 centres d'orientation dans toute la France. De nationalité française et inconnu de la justice, il a reconnu les faits sans mesurer la gravité de la situation, a souligné la magistrate. Et puis l'obligation de vaccination contre la méningite pour les bébés va être élargie à partir de l'année prochaine. Une décision des autorités sanitaires pour faire face à l'augmentation des infections graves. Le vaccin sera largement pris en charge par l'assurance maladie, cher Olivier.
Beaucoup, mon cher Simon. Et puis, on vient de l'apprendre. À l'instant, Moody's maintient changer la note souveraine de la France. Ce qui peut interroger, effectivement, on parle de dette, de déficit depuis plusieurs mois maintenant. Visiblement, ça passe encore pour la France. Je vous propose d'en dire un mot, peut-être un éclairage de Denis Deschamps, effectivement, puisqu'on s'attendait à ce que cette note puisse être dégradée. Ce n'est pas le cas ce soir. Bon, finalement, en quoi ça impacte les Français ou pas, je vous aurais posé la question si la note avait été dégradée. Ce n'est pas le cas, mais on peut s'interroger pourquoi elle n'est pas dégradée, alors que finalement, on nous parle de dette de déficit depuis plusieurs mois.
Pour être tout à fait honnête, on attendait au moins une perspective négative par rapport aux enjeux de l'année où Bruno Le Maire doit non plus chercher 10 milliards, mais au moins
20 milliards si ce n'est pas 30. Alors, il justifie ça par des manques de recettes fiscales. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce que c'est que cette note ? Cette note est très importante pour les marchés financiers. Vous savez que les pays vont financer leur déficit annuel, leur déficit entre guillemets comme un ménage. Hein, un ménage, il a un déficit à la fin du mois. Et ben dans ces cas-là, il va essayer de chercher un financement en face. Eh bien, le pays, chaque année, par rapport à son budget, va aller chercher un financement. Et puis aussi, il faut refinancer le stock de dette, le paquet de dette, qui est à 3100, 3200 milliards, ce qui est colossal d'ailleurs. Et donc ce qui est assez intéressant et important, c'est que cette notation va servir à tous les acteurs du marché financier pour dire c'est un bon élève ou c'est pas un bon élève. C'est-à-dire que, en gros, on est noté à peu près à 15 sur 20, mais si on était à 14 ou à 13 sur 20, les marchés financiers auraient appliqué une prime de risque supplémentaire, c'est-à-dire qu'on aurait pris, par exemple, pour renouveler notre dette, un taux à 5 ans, un taux à 10 ans, parce qu'on a une dette étalée sur différentes échéances, et on aurait rajouté une prime de risque, ce qui veut dire que le taux d'intérêt payé par la France aurait été plus important. C'est ce que l'on appelle le service de la dette. On paye l'intérêt tous les ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le service de la dette est en train d'exploser. C'est-à-dire que d'ici 2027, ce sera le premier budget, la première dépense de l'État chaque année, avant l'éducation nationale, avant la recherche, avant l'armée. Ça va représenter entre 70 et 80 milliards d'euros par an.
Alors, Jean-Baptiste Soufron, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais le déficit public de la France a lourdement dérapé à 5,5% du PIB. Nous l'avions relayé, une situation inquiétante. Donc finalement, qui aurait pu laisser croire que la France... Et mauvais élève. Pourquoi il n'y a que dans la finance où vous avez le droit de largement déraper et pour autant avoir une bonne note ? Ça, c'est un paradoxe que je ne comprends pas.
Parce qu'un pays, c'est une entité productive qui, justement, à travers son activité, a une bonne signature, comme on dit parfois. Et c'est pour ça que les États, d'abord démocratiques et qui ont une économie qui tourne quand même, eh bien, finalement, sont normalement plus aptes à donner du crédit que les autres. Mais de toute façon, vous savez, autant cette histoire de rating peut servir de rappel de l'importance aussi d'être attentif aux comptes publics, mais en revanche, il y a un moment, il faut aussi arrêter de donner comme ça du crédit, justement, aux agences de notation internationale. Moi, je vous rappelle qu'avant 2007, au moment de la crise des subprimes, Lehman Brothers était encore noté AAA, et que, précisément, ce sont les notations un petit peu magiques, d'une certaine manière, parce que si vous connaissez la formule, je veux bien qu'on me l'explique avec clarté. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir à faire quelque chose d'extrêmement opaque, ça c'est sûr, mais j'ai presque envie de dire une espèce de formule magique. Et ça, du coup, il y a un moment, il faut aussi savoir s'en détacher, et peut-être qu'on n'a pas totalement besoin de ça pour s'intéresser à la sobriété de nos comptes publics.
Alors Moody's qui maintient changer la note de la France, Fitch également, qui maintient inchangée la note souveraine de la France. Donc bonne nouvelle, ai-je envie de dire, pour Bruno Le Maire ce soir, puisque l'impact, il aurait été aussi politique si la note avait été dégradée.
Tout à fait. Alors moi, pour Jean-Baptiste, je pourrais lui prendre 10 minutes tout à l'heure pour lui expliquer justement que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, en fait. Les notations, et notamment Lehman, en fait, Lehman faisait, comme tous les autres, des produits structurés à l'intérieur.
Bien sûr, c'était sur les produits structurés.
Très complexes, et en fait, c'était la note de Lehman qui était appliquée, et non pas la note des produits qui étaient dedans. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ils ont quand même fait faillite.
Mais bien sûr, bien entendu. Mais je voudrais...
Alors que la veille, ils étaient AAA.
Je voulais compléter, en fait, ce que disait Jean-Baptiste sur un point, c'est qu'effectivement, la France a une capacité extraordinaire par rapport à plein d'autres pays dans le monde, c'est que, un, elle a des actifs, elle a beaucoup d'actifs, Château de Versailles, la Tour Eiffel, tous les bâtiments et tout ça, donc ça c'est le premier
point. Entreprise.
Voilà, et deuxième élément, une grande capacité à recouvrer l'impôt. Par rapport à d'autres pays, on est quasiment les meilleurs au monde à vous imposer et à faire rentrer l'impôt quasiment à 100%.
Ce que je vous propose, c'est que nous en reparlions à la fin, Shannon Semant également. Vous avez un mot à dire sur le sujet. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, revenons sur ce qui s'est passé aujourd'hui donc à Sciences Po Paris. Je vous le disais, les lignes rouges ont été franchies. Ce sont les mots à midi de la ministre de l'Enseignement supérieure, Sciences Po occupée par des dizaines de manifestants pro-palestiniens, rejoints par des députés LFI, keffiyeh sur la tête, drapeau palestinien à la main, des militants qui ont scandé Israël assassin ou From the River to the Sea, devant le campus historique de Sciences Po Paris et avec des moments de forte tension. Vous avez pu le vivre en direct sur notre antenne. On peut regarder un extrait justement de ces tensions.
Libérez Gaza!
pas de confrontation. Nous, on est là pour empêcher la confrontation. Ce qu'on veut, c'est du débat. Il nous empêche de débattre. Je comprends la colère. Je comprends la colère des gens face à des gens qui veulent simplement pointer du doigt, notamment les étudiants juifs. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on refuse la confrontation. Et on est là pour l'empêcher.
Alors je vous le disais, Yael Ménage, députée RN de la Somme, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, est en liaison. Bonsoir Madame la députée, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une première réaction à cette annonce de la direction Sciences Po qui parle d'un accord avec ses étudiants mobilisés pour la cause palestinienne. La direction qui s'engage à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires lancé contre des manifestants. Comment est-ce que vous réagissez à cette annonce de la direction de Sciences Po qui effectivement étonne, hein ?
Bonsoir. Alors, moi, je suis quand même extrêmement choquée d'apprendre que l'enseignement supérieur de la République se couche face à une forme de terrorisme, se couche face à ces gens qui en fait défendent une organisation terroriste, qui sont pro-Hamas, il faut le dire. Et je suis scandalisée et choquée par cette annonce.
Bien, Shannon Seban, vous rejoignez les interrogations de votre consoeur, Yael Ménage.
Je vais vous dire les choses très sincèrement. Ce à quoi nous avons assisté cet après-midi devant Sciences Po, c'est purement et simplement inacceptable. Inacceptable parce que nos universités doivent rester des bastions de connaissances et ne doivent pas devenir des foyers de troubles pour des questions de clientélisme électoral qui sont devenues finalement la marque de fabrique de la France insoumise. Donc qu'une candidate aux élections européennes comme Madame Rima Hassan ait décidé de faire du conflit israélo-palestinien le cœur de sa campagne des européennes, parce que je tiens d'ailleurs à vous dire qu'on parle ici des élections européennes, c'est son sujet, mais qu'elle ne vienne pas ici salir nos universités et salir nos lieux de connaissances. Et puis ensuite, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir sur ce plateau, c'est finalement, je m'interroge parce qu'on voit bien qu'il y a ici une indignation à géométrie variable. Où étaient les élus de la France insoumise en 2013 quand Bachar el-Assad utilisait l'arme chimique contre sa propre population ? Où étaient les élus de la France insoumise pour défendre le peuple ukrainien contre l'oppression du régime russe de Vladimir Poutine ? Donc moi aujourd'hui, je m'interroge véritablement, à quoi joue la France insoumise ? Donc oui, ça pose des questions. Oui, il faut mettre des mots sur les mots. Quand on a des députés de la France insoumise qui ne veulent pas qualifier de façon très claire le Hamas de mouvement terroriste, mais qui préfèrent utiliser le qualificatif de mouvement de résistance, ça interroge. Et donc oui, aujourd'hui, moi je crois qu'il faut le dire sans aucune ambiguïté, la France insoumise alimente une stratégie du chaos dans notre pays. Et d'ailleurs, je vais vous donner un scoop, la France insoumise ne veut pas accéder au pouvoir. Ce qu'il souhaite, c'est qu'une seule chose, c'est exister par le chaos, par le scandale et par ces scènes auquel on a assisté aujourd'hui, la stratégie du chaos, tout simplement. Et c'est inacceptable. Et nous ne devons pas baisser les bras face à cela. Et c'est l'appel que je veux lancer ici ce soir sur votre plateau. Nos universités doivent tenir face à cela. Et toute la classe politique doit se lever contre ce qui apparaît aujourd'hui comme un parti politique qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est importer ce conflit et créer le chaos dans notre pays.
Mais beaucoup sont d'accord avec vous, Shannon Seban, sauf que quand on entend effectivement Vincent Roy, la réaction de la direction de Sciences Po Paris...
J'entends ce que vous dites, mais je suis quand même très étonné qu'on ait laissé, on a passé une journée avant que, c'est ce soir, que la police a commencé à exfiltrer des individus à partir de 18h. Avant, rien ne s'est passé. Donc il faudrait peut-être quand même... Que l'exécutif fasse ou ne laisse pas plutôt le désordre s'installer trop longtemps. Or là, aujourd'hui, premier point, ils ont réagi, à mon sens, un peu tard. Et le mot de la ministre, la ligne rouge...
propos qui avaient déjà été tenus, Shannon Seban, on peut le souligner, en mars dernier. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé
En fait, il y a une peur. Et puis un autre phénomène. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, qui est vraiment très impressionnant. On peut être, à bon droit d'ailleurs, sensible à la cause palestinienne. À tout le moins, ça me paraît être un sentiment, tout ce qu'il y a de normal.
Mais pas d'amalgame.
Mais de là à utiliser des slogans comme from the river to the sea, ça veut dire la négation de l'existence même de l'État d'Israël, on a passé un cap. Oui, mais cette gauche-là, ou cette extra-gauche-là, a passé un cap. Ou peut-être pro-palestinien, sans vouloir rayer de la carte
mais je vais vous le dire,
l'État d'Israël. C'est-à-dire en réalité, on a là des gens qui cautionnent absolument l'idéologie du Hamas. C'est quand même gravissime. Donc, encore une fois, c'est extraordinaire.
On va écouter Rima Hassan, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a jamais de mots de soutien pour les otages, tous les otages. Ce n'est pas la paix qui est recherchée derrière, si je puis dire.
Et on va négocier la direction de Sciences Po, qui a peur. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. C'est qu'on a peur. Si on avait eu une manifestation d'ultra-droite devant une université, le problème était réglé en 10 minutes.
Ah, c'est évident. On va écouter Rima Hassan. Rima Hassan, qui a été ovationné, on peut le dire, à son arrivée. On l'écoute.
Ce qui se passe ici est extrêmement important. Les étudiants sont en train de guider, à mon sens, notre société, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis et dans plein de pays à travers le monde. Nous devons de les écouter. L'objet pour moi, c'est surtout d'être solidaire du mouvement. Je ne suis pas là pour faire de grands discours. L'idée, c'est de les soutenir, de leur dire qu'ils sont du bon côté de l'histoire et de dénoncer une position qui est extrêmement lâche de Sciences Po s'agissant de la situation à Gaza. Ça fait déjà quand même plusieurs semaines que les étudiants se mobilisent, font des tribunes, font des communiqués, demande à la direction de prendre enfin ses responsabilités s'agissant de cette actualité internationale qui est brûlante et qui mobilise les étudiants et de le faire en responsabilité. On constate aujourd'hui que malheureusement ce n'est pas chose faite et les étudiants ont raison d'embrasser ce soulèvement.
Yael Menach qui est toujours avec nous, député RN de la Somme. Effectivement, nous constatons ce soir que la volonté de la France insoumise, c'est le chaos, effectivement.
Oui, mais c'est en fait les propos de la candidate aux européennes et les filles sont quand même extrêmement graves parce qu'elle parle, elle fait référence à ce qui se passe aux États-Unis, mais n'oublions pas que ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'interdiction des étudiants juifs d'accéder à l'éducation. C'est quand même très grave, ses propos sont scandaleux, c'est même pas acceptable et elle devrait être punie pour avoir des propos comme ça. Ça veut dire que là, aujourd'hui, elle est en train d'inciter à la haine et à la violence et surtout, moi, ce qui m'inquiète en tant que juive d'ailleurs, c'est la montée en puissance de l'antisémitisme. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, les LFI, c'est non seulement du clientélisme, c'est effectivement du chaos, mais c'est surtout une montée en puissance, et je le dis et je le répète, et c'est très grave pour nous, les Juifs de France, une montée en puissance de l'antisémitisme que nous ne pouvons pas accepter et tolérer. Et le fait que Sciences Po accepte de négocier avec ces gens-là, c'est absolument scandaleux.
Vincent Roy souhaiterait vous interpeller.
Oui, parce que vous avez parlé des États-Unis. On se souvient qu'à Harvard, par exemple, madame, la directrice d'Harvard a dû démissionner car elle était, d'une certaine manière, incapable de faire régner l'ordre. Pensez-vous que la direction de Sciences Po, dans ces conditions, doive aussi démissionner, à tout le moins le directeur?
Alors, il y a un directeur par intérim. C'est ça aussi la difficulté ces derniers temps.
Un administrateur provisoire depuis... c'est une institution en faillite qui enchaîne les scandales depuis des années et qui n'a pas les moyens.
C'est pas une excuse.
Madame la députée, répondez effectivement à la question de Vincent Roy.
Mais bien sûr que la personne qui accepte de négocier avec ces gens-là, bien sûr que cette personne doit démissionner. Et d'ailleurs, pour preuve, ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque là, la candidate et les filles aux européennes y fait référence, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit tout simplement « on coupe les robinets, j'arrête de financer l'école et puis terminé ». Maintenant, aujourd'hui, ils font cours en visio parce qu'il n'y a juste plus d'établissements. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. L'école, l'enseignement supérieur de la République ne doit jamais tolérer de négocier avec des gens qui soutiennent une organisation terroriste.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Yvan Lecoz, justement? On ira d'ailleurs tout à l'heure aux États-Unis retrouver nos correspondants. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Yvan Lecoz, très concrètement concernant Sciences Po Paris? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que représentant d'étudiants de l'Uni? Vous attendez quoi? Un directeur, mais qui finalement affiche une certaine fermeté. Très concrètement, c'est quoi les actions que vous attendez?
Bon, déjà, il faut revenir sur ce que dit, je pense aussi, Madame Menach. Effectivement, il faut appeler un chat un chat. La France insoumise, aujourd'hui, c'est le chaos. La France insoumise, c'est le parti qui soutient ces rassemblements illégaux, qui appelle à les continuer et qui, je le rappelle, ne sont pas des simples rassemblements pacifiques, ce sont des rassemblements illégaux, des blocages illégaux, des occupations illégales et qui sont des occupations pro-Hamas et antisémites. Donc déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, le problème, il n'est pas juste lié à Sciences Po. Sciences Po s'est couché, Sciences Po plus que laxiste, Sciences Po est complaisant, mais c'est un problème qu'on peut retrouver dans l'ensemble des universités. On a une université, un ensemble d'universités qui est aujourd'hui laissé à l'abandon par le gouvernement, qui est laissé à l'abandon plus particulièrement par Sylvie Retailleau. Et j'entends que partout, on jette la pierre à Sylvie Retailleau. Et à raison, mais il faut aussi se rappeler, même si on a un peu plus de mal à l'attaquer, que cette personne-là, elle est nommée par Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, on l'entend pas. Gabriel Attal, il s'exprime pas sur la question. Sauf que là, je pense, quand on voit ce qui se passe à Sciences Po et quand on voit la situation dans les universités françaises, qu'il est temps que le Premier ministre y prenne la parole et... qu'enfin on puisse mettre en place des mesures qui incitent très fortement, si ce n'est contraignent, les présidents d'université et les chefs d'établissement à mettre fin à l'ensemble de ces rassemblements pro-Hamas.
Mais souvenons-nous de Frédéric Vidal, ancienne ministre de l'enseignement supérieur, qui avait voulu enquêter justement sur l'islamo-gauchisme aujourd'hui en France, et puis finalement rien ne s'était passé, Denis Deschamps. C'est-à-dire qu'on paye aussi un refus de voir la réalité.
Mais merci de rappeler tout ça, Olivier, c'est très important. Alors, cher ami, on est un tout petit peu plus âgé que vous, et c'est un des rares privilèges de l'âge, c'est que ça fait plus de 30 ans que moi j'ai constaté dans les différentes universités que j'ai traversées qu'il y a un abandon. Donc c'est un héritage. Ce n'est pas seulement à cause de Gabriel Attal ou de cette ministre en poste aujourd'hui, mais c'est un héritage en fait. Voilà, donc ça il faut le rappeler. Deuxième élément, ce qui est assez important, c'est qu'effectivement il y a un certain nombre d'universités, je pense à des universités sur les sciences sociales, sur les langues ou autres, qui sont totalement laissées à l'abandon parce qu'il y a eu des choix politiques de fait de mettre en avant certaines sections plutôt que d'autres, qui fait qu'à l'arrivée, ça a été, à chaque fois, quand il y a un reflux, comme dans les relations internationales, l'espace est occupé par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est occupé par des gens qui militent, mais pas seulement pour une opinion, pour un débat, mais simplement pour manipuler les gens. Et on le voit avec LFI, c'est que maintenant, ils ont décidé que leur tribune pour leurs futures élections, et justement, créer l'agitation dans le pays, ce sont les universités. On l'a vu dans d'autres universités où ça a été interdit, mais là, on le voit bien. En fait, ils prennent en otage l'espace pour enseigner, pour transmettre aux jeunes, pour leur propre objectif qui est de créer le chaos.
Et on va faire le lien avec ce qui se passe également aux États-Unis dans un instant. Nous allons retrouver nos envoyés spéciaux. Mais alors, je voulais vous montrer aussi cette séquence puisque les journalistes ont également été pris à partie aujourd'hui par ces militants dits pro-palestiniens. Je vous propose de regarder cette séquence. C'est notre journaliste qui interviewait Émeric Caron. Alors Émeric Caron avait accepté, pour une fois, de nous répondre. Oui, mais voilà, regardez la suite.
Actuellement, à Gaza. Dégager, genre vraiment. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. BFM, pareil, mais partez. Partez, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez ces news, sérieusement. Mais partez. Vous n'avez pas de
Ici, on les dégage. Ils ne sont pas les bienvenus. Il y a un coup de la mer sur nous. Ils nous traînent de terroristes.
Yael Ménage qui est encore avec nous avant de vous libérer, peut-être une réaction à cette séquence. Les mêmes qui hurlent au manque de pluralisme finalement veulent faire taire les médias. Voilà ce que nous avons observé cet après-midi. On peut aussi noter l'absence de réaction d'Émeric Caron, même si effectivement il a accepté de répondre à nos questions, mais qui derrière, eh bien finalement, voilà, c'est son électorat, comme le rappelle Shannon Seban. Votre réaction, Yael Ménage, avant de vous libérer.
Eh ben écoutez, moi ça confirme ce qu'on dit depuis le début, hein, ce qui a été dit sur le plateau, c'est-à-dire que vraiment LFI est là pour semer le désordre, pour semer le chaos. Encore une fois, ils sont là pour faire du clientélisme. Ils n'ont absolument pas leur place dans le champ républicain et on le voit puisqu'ils arrivent même à refuser qu'une chaîne d'information soit présente sur les lieux. Donc encore une fois, ça confirme ce qu'on dit depuis le début. Les LFI sont vraiment des gens qui sont là pour semer le désordre, pour faire en sorte qu'il y ait des conflits partout, qu'il y ait du chaos. Et surtout, et je le redis, parce que vraiment c'est important et vraiment ça me tient à cœur, je pense que ces gens-là sont vraiment... responsable et coupable de la montée de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Et merci. C'est un danger pour moi.
Merci Yael Menage, députée de la Somme, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël, qui était donc en liaison avec nous. Il y a eu énormément de réactions aujourd'hui, notamment d'anciens élèves de Sciences Po sur les réseaux sociaux ou dans les médias, et notamment la réaction de Philippe de Villiers ce soir sur notre antenne. Et il le disait, je ne reconnais plus mon école. Écoutez-le.
Les universités sont en train de s'effondrer. C'est toute l'université française qui est gangrenée aujourd'hui. Elle est gangrenée par quoi, l'université française ? Par l'islamo-wokisme. C'est-à-dire que vous avez les minorités agissantes dans toute l'université française qui infusent l'islamisme et qui infusent le wokisme. Et par l'intersectionnalité, pour l'instant, ils se battent les uns avec les autres. Mais ils sont en train de détruire ce qui a fait la grandeur de la France. C'est-à-dire la fabrication des élites universelles avec l'esprit d'ouverture. Je ne reconnais pas mon école.
On le voit, Yvan Lecaux, et effectivement, ce blougi-boulga d'idéologie entre islamo-gauchisme, wokisme, qui nous vient des États-Unis, on va y revenir. Comment est-ce que, selon vous, nous en sommes arrivés là ? Qu'est-ce que vous avez observé ces derniers mois, ces dernières années, comme étudiant ? Comment cette idéologie, bien finalement, a pu être entendue ? Comment ces étudiants ont-ils été imprégnés par cette nouvelle idéologie ?
Ils en ont été imprégnés à cause des organisations d'extrême-gauche qui infusent cette idéologie, que ce soit l'Union étudiante, l'UNEF ou la FACH, qui sont d'ailleurs massivement subventionnées par les collectivités, les universités, le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ces trois organisations, d'ailleurs avec elles, j'étais hier en audition au Sénat sur l'antisémitisme, ces trois organisations ont refusé de reconnaître qu'il y avait un antisémitisme qui aujourd'hui est un antisémitisme majoritaire, qui était un antisémitisme provenant de l'extrême gauche et ou des militants pro-Hamas. Il ne parlait qu'exclusivement de l'extrême droite, d'un antisémitisme qui pose également problème, mais qui est aujourd'hui résiduel, même si on doit tout autant le combattre. Et on voit que ces organisations qui ont la main mise sur l'université, qui aujourd'hui dirigent Sciences Po, continuent d'être aidées par les fonds publics, continuent d'être subventionnées massivement et peuvent comme ça convertir les étudiants à leur entrée dans l'enseignement supérieur. Et ça, c'est notamment dû à cause d'un laxisme, comme je l'ai dit précédemment, de nos présidents d'université et de la ministre de l'enseignement supérieur. Et vous avez parlé d'un héritage. Effectivement, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas la première ministre ou le premier ministre qui pose dans l'enseignement supérieur, qui ne prend pas les problèmes à bras le corps. Mais je pense qu'un héritage, doit être changé, un héritage doit être contredit quand c'est un mauvais héritage. Et là, c'est un mauvais héritage. C'est un héritage qui a mené l'université française dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Pendant longtemps, on s'est dit que ça serait quand même pas si mal si finalement on arrivait au même niveau que les universités américaines. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que Sciences Po, c'est Columbia, mais pas pour les bonnes raisons.
Alors justement, on va y venir. Nous allons parler de la situation dans les universités américaines. Conséquence, ce qui s'est passé aujourd'hui à Sciences Po Paris. Philippe de Villiers, là encore, s'exprimait sur cette contagion. Écoutez-le. L'université en Caroline du Sud, Philippe de Villiers, et puis nous retrouverons aux États-Unis nos envoyés spéciaux dans un instant.
Ce à quoi on assiste, c'est l'américanisation de Sciences Po. Voilà, ils l'ont voulu, ils l'ont fait, ils l'ont. L'américanisation de Sciences Po, c'est le parrainage de Columbia, le partenariat avec une université américaine. Mm-hmm. Donc le mimétisme. Et en fait, quand la France veut imiter l'Amérique, elle imite la mauvaise Amérique, c'est-à-dire la fille incestueuse d'un protestantisme dévoyé et de la Révolution française. Et ça donne ce qu'on voit en ce moment.
Et justement, alors nous allons retrouver nos correspondants aux États-Unis. On voit Elisabeth Guedel depuis New York et Ramzi Malouki, lui, depuis la Californie. Bonsoir à tous les deux. On va commencer avec vous, Elisabeth Guedel. Dites-nous, quelle est la situation sur place, situation extrêmement tendue hein, ces derniers jours dans les universités. Dites-nous un peu où en est-on ce soir ?
Eh bien, le mouvement risque bien de se poursuivre, peut-être même de s'étendre encore, puisqu'on vient d'apprendre qu'à l'université Columbia, donc ici à New York, c'est là où le mouvement a commencé il y a 10 jours, les négociations entre la direction et les manifestants pro-palestiniens ont échoué. Elles sont dans l'impasse, on dit les représentants des manifestants. Donc les campements, les tentes vont continuer à rester au cœur du campus, à moins que la présidente décide de faire appel à la police. C'est ce qu'elle avait fait la semaine dernière, mais avec l'arrestation d'une centaine d'étudiants, mais ça avait plutôt enflammé les esprits et ça n'avait pas délogé les manifestants. Donc la situation, c'est effectivement de plus en plus d'universités voient ces manifestants pro-palestiniens envahir les campus, des étudiants juifs qui se sentent de moins en moins en sécurité, certains préfèrent rester chez eux, suivre les cours en distanciel. Columbia est passé en hybride ou en distanciel complètement lundi d'ailleurs, pour assurer la sécurité de ses étudiants. Et puis, on sent, en fait, les Américains insistent à un sentiment que ces directions d'université sont de plus en plus vulnérables, affaiblies, parce qu'elles n'arrivent pas à remettre l'ordre, mais surtout à sanctionner, au nom, vous savez, du respect de la liberté d'expression, si cher aux Américains, eh bien, sanctionner les appels à la violence et les propos antisémites. Beaucoup de présidents sont appelés à démissionner, notamment par la droite américaine. On est en pleine campagne présidentielle, en plus aux États-Unis, donc qui appelle ces présidents soit à restaurer l'ordre, soit à démissionner. Et même Joe Biden, le président américain, a été appelé par des parlementaires républicains pour qu'il s'adresse directement à ces manifestants pro-palestiniens. Même les républicains parlent de pro-Hamas qui ferment les campus dans le pays et qu'ils protègent les étudiants juifs sur le campus.
Merci beaucoup Elisabeth pour toutes ces précisions. Elisabeth Guedel donc qui s'exprimait depuis New York. Nous allons prendre la direction de l'université de UCLA, l'université de Californie, avec vous Ramzi Malouki. Ramzi, alors dites-nous de votre côté, quelle est l'atmosphère ? Alors, nous avons visiblement un problème de son.
Je crois qu'il est pas
nous avons un problème de son avec vous. Nous essayons de régler tout cela. Ce sont les aléas du direct. Vous êtes avec nous, Ramzi. On vous entend. Allez-y.
Oui. Parfait. Alors je disais que les scènes se suivent et se ressemblent finalement avec, encore une fois, vous le voyez derrière moi, ces tentes installées sur le campus. Donc nous sommes ici à l'université de Californie, UCLA. À première vue, eh bien l'ambiance est plutôt pacifique, mais en faisant le tour du campus, et on l'a fait au moins 3 ou 4 fois, on sent une légère tension. Et ce que redoutent à la fois les étudiants ici et le personnel de l'université, eh bien c'est ce qui s'est passé, on va le voir sur ces images d'hélico, ce qui s'est passé sur le campus de l'autre université de Los Angeles qui se trouve de l'autre côté de la ville, l'Université of Southern California, où la police en tenue anti-émeute est intervenue pendant une manifestation pro-Gaza, intervention qui a conduit à l'arrestation de 93 personnes. J'ajoute que USC, l'Université donc de la Californie du Sud, a décidé d'annuler la traditionnelle cérémonie de remise de diplôme. Alors, pour en revenir à UCLA, que ce soit du côté des étudiants pro-palestiniens ou des étudiants pro-Israël, ils nous ont tous confié qu'ils souhaitaient en fait s'exprimer librement, utiliser le premier amendement de la Constitution américaine. Ils précisent sans présence policière, et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de police ici, ni à l'extérieur du campus, ni à l'intérieur, juste des agents de sécurité. Il n'empêche, hein, ces mouvements qui ne cessent de prendre de l'ampleur, eh bien, c'est à tel point que, comme Elisabeth le précisait, Joe Biden a été obligé de s'exprimer. D'un côté, il condamne les manifestations antisémites, et de l'autre, il dénonce la crise humanitaire à Gaza. UCLA ici, un calme, je dirais, tendu encore une fois, en espérant qu'il n'y ait pas, et c'est ce que redoute d'ailleurs tout le monde ici, une escalade, autrement dit des confrontations entre manifestants et contre-manifestants.
Un grand merci, Ramzi Malouki, en direct de la Californie, de l'Université de Californie. Donc, merci pour ce point de situation très complet. Un climat tendu et ces belles images également hein, de nos correspondants sur place. Alors, une situation qui a finalement été, pardonnez-moi, il est tard, je ne trouve plus mes mots. Anthony Blinken, on entendait Joe Biden a réagi. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, lui aussi a réagi. Ses occupations font partie de la démocratie, a-t-il dit. Donald Trump, lui, s'est également exprimé. Pour lui, il s'agit de l'expression de la haine. Voilà. En tout cas, on voit que la situation fait réagir la classe politique au plus haut point.
Alors c'est très intéressant, justement, c'est sur ce point où je voulais vous amener, quand je voulais intervenir. C'est très intéressant la situation américaine, parce qu'en fait, on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Et effectivement, là-bas, le sacro-saint droit de s'exprimer passe avant tout, même quand on dit des horreurs. Mais ça passe avant tout. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est si ça va ou pas se métastaser à toutes les autres universités. Ça peut bloquer le pays là-bas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il va falloir observer, qui est beaucoup plus fin, c'est comment vont se comporter toutes les jeunes générations dans les entreprises qui embauchent beaucoup de jeunes, notamment dans la Silicon Valley qui est juste à côté, où en fait il y a majoritairement des jeunes, voire des très jeunes, qui travaillent et qui créent la richesse dans ces entreprises. Et là aussi, ça peut faire une contagion dans le domaine privé, dans les entreprises. Donc attention, parce qu'après ce conflit moral, politique et moral, peut s'exporter dans tout l'Occident, entre guillemets. Ça ne va pas s'exporter en Irak, ça c'est sûr, ni en Birmanie. Mais ça peut s'exporter en Angleterre et ça peut s'exporter en Europe. Troisième point, dernier point, ce qui est assez important, c'est qu'en réalité, là-bas comme ici, on constate quoi ? Un, beaucoup de manipulation par des partis derrière ou par des mouvements d'extrême. Deux, il faut pas se leurrer. Regardez par exemple les LFI en France, on l'a déjà dénoncé plein de fois, ils n'ont pas reconnu le résultat démocratique de la présidentielle en voulant faire un troisième tour avec les législatives pour dire « moi je veux être Premier ministre parce que je dois avoir cette place-là ». Donc en fait, on est en train d'attaquer la démocratie, donc je ne suis pas du tout d'accord avec Blinken, vous voyez, je rejoins la boucle, c'est qu'en réalité, ce n'est pas de la démocratie, c'est tout est possible, soit pour conquérir le pouvoir, soit pour déstabiliser un pays.
Ce qui est étonnant tout de même, c'est qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde, et c'est malheureux, bien évidemment, le conflit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y en a d'autres, on peut penser aussi aux Ouïghours, à la condition des Ouïghours, et pour autant, aux États-Unis, nous sommes à des milliers de kilomètres du conflit au Moyen-Orient, Shannon Sevan, et ça cristallise les tensions. Ma question est, pourquoi il n'y a que ce conflit qui cristallise autant les situations à travers le monde entier aujourd'hui?
Mais parce que ce conflit-là, le conflit israélo-palestinien, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est un conflit qui dure depuis des années. Et aujourd'hui, la France insoumise, et je vais vous le dire comme je le pense, n'existe que par le clientélisme électoral. On l'a vu en 2022, je suis élue en Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois. J'ai dans mon département 12 députés sur 12 qui sont issus de la NUPES et 9 députés sur les 12 qui sont issus de la France insoumise. Donc je sais de quoi je parle. Et lors des dernières législatives, lors des dernières présidentielles en 2022, si la France insoumise a réussi à effectuer un grand chelem au niveau des circonscriptions, c'est parce qu'ils ont été voir certaines communautés en leur faisant de belles promesses pour pouvoir être élus. Donc ils n'ont pas été élus sur la base de compétences, sur la base de connaissances, sur la base d'un projet politique, mais bien sur une ambition qui est de faire croire qu'ils allaient servir une communauté. Mais moi je vous le dis, je sillonne le département. J'y étais ce soir, j'y suis demain matin à la première heure. Les Françaises et les Français ne sont pas dupes. Il faut arrêter. Et il y a un moment, moi j'ai envie de donner un conseil aux membres de la France Insoumise. Les amis, c'est trop gros là. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc le clientélisme électoral, la manipulation des électeurs pour pouvoir acquérir des sièges au Parlement européen, il y a un moment, stop. Et là, ça apparaît de façon très claire. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme pour la France Insoumise. Sous couvert de « nous, on veut la paix ». Vous savez, nous, on est pour une solution à deux États. Bon, d'ailleurs, Rima Hassan n'appelle pas une solution à deux États. Ce qu'elle veut, c'est un État binational. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la conférence à Lille, qui a d'ailleurs été interdite à plusieurs reprises. Dans le logo Libre Palestine, j'ai eu tout le loisir de le dire à votre antenne, où est l'État d'Israël ? Hein ? C'est une carte sur laquelle on ne voit absolument pas l'État d'Israël, qui nie l'existence de l'État d'Israël à exister et qui souhaite imposer un État palestinien. Donc, Moi, l'appel à la paix, si vous voulez, il y a un moment, j'ai du mal à y croire. Et quand on voit, je me permets de terminer ici, le tweet de Rima Hassan ce soir qui appelle au soulèvement, très sincèrement, je crois que la
message. Autre tweet de Jean-Luc Mélenchon que nous allons découvrir ensemble, mais félicitations aux étudiants de Sciences Po qui sont sortis en ordre et dans le calme du nassage et qui ont déjoué les provocations des cagoulés, des organisations violentes pro-Netanyahou de Paris, fiers de nos camarades députés LFI présents sur place pour s'interposer. Avec BBC et CNN, le monde a pu voir la France de la lutte contre le génocide. Cette jeunesse est notre honneur, voilà, dans la provocation. Et d'ailleurs, on peut dire que ça ne marche pas parce que...
Mais il y a quelque chose de très important. Vous avez vu, le mot de génocide a été présenté puisqu'il n'y a qu'une idée, il n'y a qu'une idéologie, c'est que l'État d'Israël, depuis 1948, est un État colonial, pour eux, pour LFI. Mais l'idéologie, c'est quoi? C'est l'idée en tant qu'elle domine. Vous avez vu un seul discours, une seule idée. Et là, vous avez les racines du fascisme. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Barthes l'explique très bien. Il dit, le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est obliger à dire. Voilà, on vous oblige à dire et à penser que l'État d'Israël est un État colonial et qu'il commet sur Gaza un génocide. Sorti de cette seule idéologie, rien n'est plus possible. Et donc, on veut à toute force que le seul discours qui soit entendable à Sciences Po soit celui-ci et pas un autre.
Yvaine Lecouze.
Ce qui est absolument dingue, c'est de regarder ce tweet de Mélenchon, de le lire.
Qu'on va revoir d'ailleurs.
Il parle de violence, de pro-Netanyahou, de pro-israélien, peut-être même d'extrême droite, dans ce tweet. Mais la violence aujourd'hui, elle vient de quel camp? Quel camp emploie la force pour bloquer un établissement? Quel camp occupe par la force un établissement? Quel camp, lorsque nous avons manifesté avec l'UNI et nous avions une pancarte Hamas égale terroriste pour la venue de Jean-Luc Mélenchon lundi dernier? Cette pancarte Hamas égale terroriste a été arrachée par ces militants pro-palestiniens qui étaient entourés de drapeaux de la France insoumise. Et aujourd'hui, quand on regarde le rassemblement, au même moment où CNews se fait attaquer, au même moment où on voit que d'ailleurs, c'est pas seulement CNews, hein, d'autres journalistes de droite ont été attaqués et mis à l'écart lors
c'est
de cette...
C'est pas une question de journalistes de droite ou pas, c'est BFM, journalistes, nous on n'est pas ni de droite ni de
la liberté d'expression, voilà. Ont été attaqués dans cette manifestation. Au même moment, à côté d'eux, il y avait des députés de la France insoumise qui n'ont pas levé le petit doigt, qui n'ont rien dit. Donc la violence, elle vient d'un seul camp. Le soutien aux terroristes, il vient d'un seul camp. Et quand on voit des personnes comme Rima Hassan ou comme Jean-Luc Mélenchon dénoncer une forme de violence qui aujourd'hui n'existe que d'un seul côté, le leur, je suis effaré. Je pense que l'ensemble des Français l'est également.
Et c'est vrai que les protections policières de personnalités liées à des menaces, eh bien, la plupart du temps, ce sont des... Voilà, nous redécouvrons le tweet de Rima Hassan. Venez toutes et tous à Sciences Po, l'heure est au soulèvement. Mais...
Ça, c'est comme très grave. Ça devrait se passer en justice. Alors moi, je voudrais rajouter juste un mot, très important. C'est que pendant qu'on voit ces images-là, et pendant qu'on voit cette manipulation de LFI derrière, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde. Et dans le monde, on voit énormément de chancelleries, même tout le bloc du Proche et du Moyen-Orient, qui souhaitent trouver une solution à ce conflit qui dure depuis trop longtemps, et contrairement à certains agités qu'on a vus dans la rue tout à l'heure, de supprimer un État, puisque en fait du fleuve à la mer, c'est de supprimer un État, appelons un chat, justement la solution, ce serait d'en créer un autre État, et de faire vivre ensemble et de cohabiter ensemble des peuples. Parce qu'attention, le Hamas n'est pas représentatif de tous les Gazaouis, même représentatif de très très peu. Donc en réalité, ces peuples, ils veulent vivre en paix l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils veulent? La sécurité et le bien-être et grandir avec leurs enfants. Et je pense que ce n'est pas supprimer un État, c'est d'en créer un autre et de créer les conditions du vivre ensemble.
Jean-Baptiste Souffron, que faire à présent? Une ligne rouge a été franchie, c'est ce que nous a dit la ministre de l'Enseignement supérieur. C'était aujourd'hui. Elle avait déjà dit, il y a en mars dernier également, une ligne a été franchie lorsque des étudiants juifs n'avaient pas pu pénétrer. On le rappelle, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a ce type de situation. Pierre-Henri Dumont, député des Républicains, voilà son constat et voilà ce qu'il propose. Valse des directions, délire woke et antisémite, suppression du concours d'entrée pour le remplacer par un oral mené par des professeurs politiquement orientés. Sciences Po est à la dérive depuis plusieurs années. Il est temps de mettre l'école sous tutelle pour la sauver.
Écoutez, elle est déjà d'une certaine manière sous tutelle puisque c'est un administrateur provisoire qui aujourd'hui gère l'école. Mais attention, il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Aux États-Unis, quand les policiers interviennent sur les campus, c'est à la demande des présidents d'université. Car comme en France et aux États-Unis comme en France, la liberté académique, si vous voulez, c'est quelque chose de particulièrement important. Et c'est d'ailleurs ce que le secrétaire d'État américain rappelait en fait quand il intervient. Ce qu'il rappelle, c'est l'importance de la liberté académique. Mais pourquoi les présidents d'université interviennent-ils aux États-Unis? Ils n'interviennent pas en raison des propos qui sont tenus par les étudiants. Ils interviennent parce qu'aujourd'hui, des étudiants juifs ne peuvent plus venir étudier. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, en raison d'amalgame, parce que parler de génocide pour ce qui se passe en Palestine, c'est faire du négationnisme, puisque c'est essayer de procéder par une espèce d'analogie pour faire croire qu'en réalité, eh bien, les Juifs ne seraient pas aujourd'hui tributaires de la Shoah dans la mesure où ils auraient un petit peu fait leur Shoah à eux de leur côté. C'est ça qui est en jeu. C'est ce discours qui essaie de s'imposer. Et quand ce discours s'impose, il a des conséquences concrètes. Ce n'est pas juste du discours. C'est aussi quelque chose qui finit par aboutir à quoi ? À ce que les étudiants juifs français, typiquement, ne puissent plus venir étudier à Sciences Po, tout comme aujourd'hui les étudiants juifs américains n'osent plus venir étudier sur leur campus. Et c'est pour ça que les présidents d'université interviennent. Ce n'est pas parce qu'il y a des débats, ce n'est pas parce qu'il y a de la politique dans l'université. Ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif de le préserver. La liberté académique, c'est fondamental, c'est un élément de la liberté de conscience. Mais là, ce n'est pas ce qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il y a besoin d'intervenir. On a déjà un administrateur provisoire à Sciences Po, visiblement. Cette école, cette université, on ne sait plus très bien ce que c'est, qui est financée essentiellement sur des subventions, qui a un statut qui est complètement exceptionnel dans le paysage académique français, qui par ailleurs, qui est par ailleurs en jachère totale. Peut-être effectivement que là, il y a quelque chose à faire. Mais peut-être aussi peut-on simplement se poser la question du véritable rôle de cette école. Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose aujourd'hui?
Et pour conclure, nous aurons l'occasion d'en reparler, notamment demain sur notre antenne. Pour conclure, nous retiendrons que la direction de Sciences Po Paris, eh bien, s'est couchée ce soir, on peut le dire, avec un accord passé avec ses étudiants mobilisés aujourd'hui. La direction de Sciences Po, donc, qui s'engage à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires lancées contre des manifestants. Qu'est-ce que ça veut dire un débat interne, finalement, Yvan Lecaus, pour conclure?
Vous savez, dans ce qui sera abordé dans le débat interne, il y a également les relations avec les universités israéliennes et les organisations pro-israéliennes.
Très important.
Donc après ces débordements, plus que des débordements, je dirais que même c'est une ligne de conduite, après cette ligne de conduite des militants pro-Hamas, pas juste pro-palestiniens, mais pro-Hamas, à Sciences Po, où ils ont bloqué, ils ont dégradé, ils ont occupé l'école, Sciences Po ne va pas remettre en question la présence de ces militants-là dans leur institut. Sciences Po ne va pas remettre en question peut-être la venue de certains députés qui ont mis l'huile sur le feu, comme ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon lundi dernier. Non, Sciences Po va remettre en cause, via des discussions, des partenariats avec des universités israéliennes et des organisations pro-israéliennes. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et donc nous, avec l'UNI, aujourd'hui, on veut dire stop à ce laxisme, parce que ce laxisme, il émane pas forcément de Sciences Po. Ce laxisme, il émane, et je le répète, du gouvernement, de Sylvie Retailleau, qui préfère laisser faire plutôt qu'agir par peur.
Peut-être un droit de réponse de Shannon Seban pour conclure, et nous reviendrons sur... la dette française, la France qui s'en sort bien. Allez-y.
Non, je trouve que c'est facile, extrêmement réducteur que de rejeter la faute sur le gouvernement et sur l'action des ministres successifs de l'éducation nationale. Je veux dire, ces universités-là, elles sont indépendantes. On l'a vu la semaine dernière, il y a quelques jours à Lille, quand le président de l'université a décidé lui-même de suspendre ou en tout cas d'annuler la conférence qui était tenue dans ses murs. Moi, ce que je veux rappeler, et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Madame Retailleau, notre ministre sur ce sujet cet après-midi, c'est que nos universités, ça doit rester des lieux de savoir et de connaissance, mais encore une fois, en toute indépendance. Et le débat, il peut y avoir du débat au sein de nos universités, bien au contraire. Mais si le pluralisme est assuré et si les conditions d'un débat apaisé et serein sont réunies, en l'occurrence, de quel débat apaisé parle-t-on cet après-midi devant Sciences Po? Très sincèrement, vous avez vu les mêmes images que moi, je crois. Ce sont des milliers d'étudiants qui sont rassemblés, qui prennent à partie les journalistes.
Pas des milliers.
Qui prennent à partie...
Pas des milliers. On peut noter que c'est une extrême minorité,
mais vous voyez très bien où je veux en venir, qui prennent à partie des journalistes, bien évidemment, et qui bafouent justement ce droit de débattre et ce pluralisme et cette liberté. Moi, ce que je retiens cet après-midi, c'est qu'on avait encore une fois des députés qui ont arboré leur écharpe tricolore. Cette écharpe tricolore, ce n'est pas un paillasson. ce n'est pas un paillasson. Donc quand on est un député, quand on est un élu de la nation, on s'assure d'avoir un comportement qui est idoine, qui est adéquat, qui est respectueux de ses fonctions.
Il y a longtemps donc, que...
Je vous propose, on aura l'occasion d'y revenir largement, notamment demain.
Je crois qu'il est toujours bon
de
rappeler. Il nous reste
un peu plus de 3 minutes. Cette autre information qui nous est parvenue ce soir aux alentours de 22h30, eh bien, les agences de notation Fitch et Moody ont laissé inchangées les notes souveraines qu'elles attribuent à la France, malgré le fort dérapage du déficit public de la France. C'était l'année dernière. Alors, bon, il est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre finalement pourquoi une note est inchangée, pourquoi on a une bonne note alors que finalement le travail n'a pas été excellent. C'est un peu ça qu'on peut retenir, Vincent
Roy. Parce que si on nous prête, on peut rembourser. En fait, c'est ça.
C'est ça ce que ça veut dire.
Le nerf de la guerre, c'est ça. Ouais. C'est on vous prête, est-ce que vous êtes capable de rembourser ?
La France est un bon client pour les banques.
Tout à fait.
Absolument.
Voilà. Alors, Bruno Le Maire a réagi. Notre ministre de l'économie, on va découvrir ensemble donc ce qu'il a déclaré ce soir. Et vous allez nous décrypter tout cela, Denis Deschamps. Je prends note de cette décision de Fitch et Moody's qui doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques et tenir l'objectif fixé par le président de la République, être sous les 3% de déficit en 2027. Donc Bruno Le Maire qui sera en poste.
Il y a deux choses.
Pas de risque politique.
Il y a deux choses.
Ce soir.
C'est que là, 3% en 2027, c'est tellement loin qu'il a le temps de penser à la présidentielle en se rasant le matin. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a surtout aussi l'échéance à court terme, c'est-à-dire sur cette année-ci. D'abord, voir comment est-ce que va déraper ou pas cette affaire des 10, 20 ou 30 milliards. Peut-être en fait qu'il va y avoir un sursaut grâce aux JO pour faire des rentrées supplémentaires de TVA qui va peut-être permettre de sauver le budget. Et surtout, je voudrais dire aux Français ce soir qu'on a évité une très grosse hausse des impôts. Parce que si on avait été soit en surveillance négative ou alors si la note avait baissé,
c'était ça l'impact
direct. Il aurait fallu une hausse des impôts, c'est mécanique.
Je ne suis pas d'accord parce que pour avoir travaillé pour Bruno Le Maire pendant 2 ans, c'est un homme qui tient parole et il l'a dit et il l'a redit, notamment en lien avec le président de la République Emmanuel Macron. Il n'a jamais été question d'augmenter les impôts. Donc effectivement,
Face au marché financier, il n'avait pas le choix. La charge de la dette que j'expliquais tout à l'heure aurait augmenté très significativement parce qu'en fait, il y aurait une prime de risque, donc le taux d'intérêt aurait été plus important. Mécaniquement, il fallait aller chercher
au moins 10 à 15 milliards de plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, ce ne sera pas le cas puisque Fitch et Moody's laisse inchangée la note souveraine de la France et ce sera le dernier mot. Il nous reste quelques secondes, Chalon Seban. La parole pour vous, pour conclure.
Si je peux juste me permettre, effectivement, c'est un signal extrêmement positif parce que la croissance est revenue dans notre pays. Moi, je veux dire qu'on sort ici d'une période qui a été extrêmement compliquée avec la Covid, avec la crise ukrainienne notamment. On a quand même 2 millions d'emplois qui ont été créés depuis 2017. On a un bilan économique dont nous ne devons pas rougir. Et bien évidemment, nous avons un objectif qui est de passer de 5,5% du déficit à 3% en 2027. Et cette notation-là, c'est un encouragement à aller plus loin dans nos objectifs de réduction de la dette. Et nous tiendrons.
Et c'est bien dommage que l'émission se termine maintenant, puisque, là, je sens que votre constat provoquait derrière le débat, mais ce sera pour une autre fois. Un grand merci à tous les 5 d'avoir décrypté, analysé l'information, une information riche ce soir, et qui continue sur CNews, puisque dans un instant, c'est l'édition de la nuit, avec Simon Guillain. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à toutes les équipes techniques. Je vous retrouve demain à 17h, Punchline Weekend. Excellente nuit sur notre antenne, à très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.